Je disais que j'avais une bonne surprise que j'allais vous proposer en ce début d'année une aventure. Il y en a qui aiment les aventures? Ouais. Qui n'aime pas les aventures? En fait, ça va être l'aventure, ça va être notre étude. On va étudier la lettre aux Hébreux. Et c'est une aventure parce que c'est justement une lettre qui va nous permettre de mieux connaître, de mieux découvrir, de mieux appréhender qui est Jésus-Christ. Et ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos chants de louange, c'était très tourné vers lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va voir qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a personne de mieux que Jésus-Christ. Cette lettre aux Hébreux, elle parle de la supériorité, de la prééminence de Jésus-Christ. Comme on dirait aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est top. Il n'y a rien d'autre qui vaille la peine de nous préoccuper, rien d'autre qui vaille la peine d'investir du temps, des ressources. On va, dans cette lettre, découvrir qui il est vraiment. On ne va pas arriver à la plénitude de la connaissance de Christ, mais c'est une question tellement importante. Christ l'a posée à ses disciples. C'était juste avant de monter à Jérusalem pour y être crucifié, mis à mort, crucifié et ressuscité. C'est un passage dans Matthieu 16, 21. Et à un moment donné, il se tourne vers ses disciples et il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette question, Jésus continue de la demander à chaque être vivant sur cette terre. Chaque homme, chaque femme, il leur demande, « Toi, qui dis-tu que je suis ?» Et cette question, 2000 ans plus tard, elle reste toujours la question la plus importante et de loin à laquelle tout homme doit répondre. Et quand on y réfléchit, l'idée que nous nous faisons de Dieu, c'est le facteur le plus important qui va influencer notre vie ici-bas. Non seulement notre vie ici-bas, mais notre vie à venir. Et donc cette lettre aux Hébreux, elle adresse ce sujet, elle répond en partie. En partie parce que Jésus-Christ étant Dieu, on ne peut pas l'épuiser, on ne peut pas épuiser tout ce qu'il y a à savoir de lui. Il y aura toute une éternité à faire cette chose que d'apprendre à le connaître et à le célébrer, à le glorifier. Mais cette lettre, elle répond déjà d'une façon magistrale à cette question essentielle. Qui dites-vous que je suis ? Ce qui est intéressant, c'est que cette lettre qui est tellement importante, on n'est pas sûr de qui l'a écrit. L'auteur ne s'identifie pas dans le texte, comme c'est souvent le cas, et donc on est réduit à des spéculations. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'auteur avait une connaissance intime de l'Ancien Testament. Il cite beaucoup de passages de l'Ancien Testament dans la version grecque de l'époque, qui était la version qu'on appelait la version de la Septante, qui était une traduction en grec faite à Alexandrie par des spécialistes juifs de l'Ancien Testament, mais qui connaissaient le grec et qui donc ont fait une traduction qui s'adressait à tous les juifs qui ne parlaient plus la langue hébraïque parce qu'ils avaient été déplacés. Il connaissait très bien notamment le livre du Lévitique. Livre du Lévitique qui indique comment Dieu demandait à ce qu'il soit célébré, adoré par des prêtres dans un tabernacle. Il y avait tout un rituel qui est décrit en détail dans le livre du Lévitique. Souvent, c'est un livre sur lequel on s'enlise. Vous avez peut-être commencé avant de fréquenter une église à dire j'ai une Bible, je vais commencer à la lire. La Genèse, il y a des histoires, il y a des récits, il y a des aventures, il y a des traîtrises, il y a des trahisons, il y a des attaques, ça se lit assez facilement. Même assez facilement, on peut visualiser. Et puis, quand on arrive dans ce livre du Lévitique, là, généralement, on cale. Parce qu'il y a des descriptions de rituels qui ne nous parlent plus du tout. Mais la personne qui a écrit la lettre aux Hébreux, elle comprenait vraiment le Lévitique. Et soit dit en passant, maintenant que nous avons toute la Bible, et notamment le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux, l'étude du Lévitique est une étude passionnante, qui n'est pas souvent faite, et nous ça fait plus de 10 ans qu'on l'a pas faite en détail. Mais je me souviens, j'avais des collègues pasteurs à Nice qui me disaient « Mais c'est pas vrai, on m'a dit que tu étudiais la lettre, ou plutôt le Lévitique, verset après verset, c'est pas possible, les gens reviennent dimanche après dimanche. » Et j'ai dit « Et comment, au contraire, quand on voit la richesse, et comment on voit comme ça s'applique à notre vie aujourd'hui, comment ça préfigure Jésus-Christ, on est abasourdi. » Alors rassurez-vous, je vous invite, si vous le voulez, à lire Lévitique, mais on va faire des rappels à chaque fois qu'il y aura lieu de les faire pour mieux comprendre comment cette lettre aux Hébreux, elle répond à ces questions qui sont évoquées dans le Lévitique, comment elle fait référence. Alors, pour l'auteur, l'auteur qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Paul. Mais Paul avait l'habitude de signaler qu'il était l'auteur des lettres. Donc certains disent que ça ne devait pas être lui. D'autres ont pensé que c'était peut-être Luc. D'autres ont dit Apollos. D'autres Barnabas. D'autres Silas. C'est un grec assez littéraire. Et une idée intéressante, c'est que peut-être c'était Luc qui écrivait sous la dictée de Paul, mais encore une fois, on n'en sait rien. La seule chose que l'on sait pour sûr, c'est que l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Pierre disait que la parole a été écrite par le Saint-Esprit, que c'est des hommes qui, sous la dictée du Saint-Esprit, ont mis sur le papier ce que Dieu voulait qu'ils disent. Ça, c'est dans 2 Pierre, je crois, 1:21. J'ai pas les pages dans votre version, mais bien sûr, je vais pas. Pardon ? En fait, je veux dire, c'est, je veux parler du passage de 1 Pierre, 2 Pierre 1, 20. On va lire le verset 19. « Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » L'étoile du matin, c'est une belle description de Jésus-Christ. « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et la Bible, toute la Bible, c'est remarquable. Elle est composée de 66 ouvrages différents, qu'on appelle des livres, qui peuvent être des lettres, comme la lettre aux Hébreux, qui ont des formes littéraires différentes, qui peuvent être des poèmes, comme les psaumes. Ces 66 livres ont été écrits par près de 40 auteurs humains différents, de tous les milieux sociaux. Et ces 40 auteurs, ils ont écrit en 3 langues, sur 3 continents, et pourtant on voit une unité incroyable. Cette unité, c'est Dieu qui l'a mise dans son ouvrage, et c'est parce qu'elle est unique, elle est unie, parce qu'en fait, c'est l'Esprit Saint qui a écrit toute la Bible. Donc, si on vous demande qui est l'auteur de la lettre aux Hébreux, vous pouvez toujours être sûr que c'est l'Esprit Saint, même si on ne sait pas quel est l'auteur humain qu'il a utilisé. J'aime bien cette idée de Luc, parce que le style ressemble davantage au style de Luc que de Paul, écrivant peut-être sous la dictée de Paul, mais peu importe, ce qui compte, c'est que ce qui est annoncé, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et sur elle, on peut fonder nos vies et on va apprendre à mieux connaître Jésus-Christ. Où est-ce qu'elle a été écrite? Si c'était Paul, peut-être à Césarée, sinon on n'en sait absolument rien. Quand est-ce qu'elle a été écrite? On sait que c'était après la vie de Jésus-Christ ici-bas. Mais c'était sans doute avant la destruction du temple qui est intervenue en l'an 70. Et la plupart des spécialistes mettent cette lettre comme étant été écrite en 65 ou 67 ou 68. Donc peu de temps avant la destruction du temple. À qui a-t-elle été écrite? Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un SMS qui me disait « Bonjour Élodie ». Elle n'est pas là, elle est là-bas. C'est important de savoir qui doit recevoir un courrier. Et donc j'ai compris, c'est quelqu'un qui, en choisissant le destinataire, s'est trompé de colonne, où il répondait à un SMS croyant que c'était un SMS d'Élodie. En fait, c'était un SMS de ma part. Peu importe. On a souvent considéré que la lettre aux Hébreux, c'est une lettre difficile à comprendre. Et qu'il y a des passages très difficiles à expliquer. En fait, on va voir que si on sait à qui l'auteur s'adresse, ça devient beaucoup plus clair. Et les problèmes habituels qui bloquent beaucoup de personnes qui disent « Oh, c'est difficile. » En fait, on peut savoir, c'est une lettre aux Hébreux. C'est donc des Juifs. Et parmi les Juifs qui vivaient à l'époque, comme parmi les païens qui vivent aujourd'hui, les Juifs qui vivent aujourd'hui, on peut distinguer 3 groupes. Il y avait les chrétiens, les hébreux, les juifs chrétiens, qui étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des juifs messianiques. Ceux-là, ils étaient convaincus, ils avaient entendu le message de l'Évangile, ils l'avaient intégré, ils y avaient cru, ils avaient commencé à le vivre. Et l'auteur veut encourager ces chrétiens hébreux. Un autre groupe qui existait, et la lettre est écrite aussi pour eux, et c'est pour ça que différents passages ont un accent différent, ce sont des juifs qui étaient convaincus intellectuellement. Ils avaient entendu certains des apôtres, ils avaient lu certains des textes, ils avaient entendu des chrétiens engagés leur parler, et ils se disaient que c'est vrai, après tout, Jésus-Christ devait être le Fils de Dieu, mais leur problème, c'est que ça, il n'y avait pas eu d'engagement personnel. Et parmi nous aujourd'hui, même en France, combien de personnes vous disent « je suis catholique non pratiquant » ? Ça veut dire en fait qu'ils n'ont rien compris. On ne peut pas être vraiment chrétien, avoir compris le message sans s'engager. Mais c'est vrai qu'on peut intellectuellement dire « oui, il doit y avoir un Dieu ». Et c'est vrai que le Dieu qui est décrit dans la Bible, il a l'air assez bien comme gars. Mais ça ne fait pas une grande différence dans ma vie. Donc ça, c'est un autre groupe. Les Hébreux qu'on pourrait dire croyants non chrétiens. Et puis, il y a un troisième groupe, et c'est pour beaucoup de nos contemporains leur cas, c'était des gens qui n'étaient pas convaincus du tout, ils n'étaient pas convaincus intellectuellement, et bien sûr, ils n'étaient pas engagés pratiquement dans leur vie, ils vivaient à distance de Dieu, sans soucier. Et on verra que si on prend en compte ces trois groupes, beaucoup des passages qui posent problème dans la lettre aux Hébreux, sont beaucoup moins difficiles à interpréter et à recevoir. Pourquoi est-ce que cette lettre a été écrite ? Alors là, suivant les groupes, on a dit qu'ils voulaient déjà encourager les chrétiens engagés, les Hébreux engagés. Il voulait avertir ceux qui étaient convaincus intellectuellement, mais pour qui ça ne faisait pas de différence, qu'il était important de prendre un engagement et de s'y tenir, de vivre pour Christ. Et puis, il voulait informer, il voulait évangéliser ceux qui ne croyaient pas, ceux qui n'étaient pas engagés, ceux qui n'étaient pas convaincus, ceux qui s'en moquaient, comme de l'an 40. À l'époque, se moquer de quelque chose comme de l'an 40, c'était peut-être moins mauvais qu'aujourd'hui. C'était pas très loin, l'an 40. Il va, parmi ceux qui croyaient et ceux qui étaient encouragés et qui voulaient encourager, il devait être encouragé. Pourquoi ? Parce que les persécutions commençaient à peser sur eux. On sait que dans les années 60, il y a eu l'empereur Néron qui a persécuté les chrétiens de façon terrible. On dit même que il était au sommet de son délire paranoïaque. Et c'est vrai qu'on peut prier que certains hommes puissants dans le monde, certains des hommes qui vont arriver en 2017, soient contrôlés par Dieu, parce qu'on voit comment quelqu'un qui est un peu parano, quelqu'un qui est un peu dérangé, peut faire de mal à l'humanité. Alors je ne sais pas, je vise personne, mais je vous laisse mettre Je vous laisse prier pour les gens qui, peut-être, selon vous, ont besoin de beaucoup de prières. Ces chrétiens étaient persécutés, ces chrétiens juifs, et c'est vrai que là, ils commençaient à perdre leur foi, ou à la laisser de côté un peu, d'abord parce que c'était dangereux. D'autres, peut-être, trouvaient que cette foi, elle ne changeait pas grand-chose à leur vie. Ils étaient peut-être venus à Christ en pensant qu'ils auraient une meilleure vie matérielle, qu'ils auraient plus de prospérité matérielle, plus de santé, plus de joie dans leur vie. Et cette joie, s'ils ne la trouvaient pas en Jésus-Christ, elle n'était pas nécessairement présente. Et ces gens, comme nous aujourd'hui, continuaient peut-être des activités religieuses, mais la réalité spirituelle dans leur vie, elle était en train de s'estomper. Ils étaient peut-être influencés, comme nous aujourd'hui, par des philosophies humanistes, et le doute s'était infiltré dans leur cœur. Et ces choses-là, ce n'était pas seulement pour les chrétiens de l'époque, les chrétiens juifs. C'est un danger qui nous guette tous. Si nous n'entretenons pas notre foi de façon vivante, si nous nous laissons distraire par des tas de choses, on risque aujourd'hui encore de se détourner de Christ. Et eux, à l'époque, ils envisageaient de retourner au système judaïque pour trouver le salut. Vous passez sans doute, lorsque vous allez à Antibes ou Cannes, ou Menton, vous passez par les péages d'autoroute. Vous n'allez plus jamais passer par un péage d'autoroute sans y penser différemment après ce que je vais vous dire. Dieu voulait avoir une relation avec son peuple. Dieu a créé les hommes pour avoir une relation d'amour avec eux. Les hommes ont vécu dans la plus grande intimité qui soit avec Dieu. La Genèse décrit comment ça se passait dans le jardin d'Éden. Et puis, l'homme s'est laissé tromper par Satan, notre ennemi, un ange déchu qui avait été aussi créé par Dieu, qui est un être réel, c'est pas une légende, c'est pas une belle façon de raconter une belle histoire, c'est pas un récit mythologique, c'est une réalité. L'homme influencé par Satan a décidé de ne plus faire confiance à Dieu et en sorte de se rebeller contre Dieu. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais Dieu, toujours désireux d'avoir une relation avec l'homme, a établi un système de sacrifice. Et lorsque l'homme a péché, la barrière qui lui donnait l'accès à Dieu est retombée. Et puis, Dieu a dit, on va les laisser passer de temps en temps. Et donc, il a institué ce système de sacrifice. Quand ces hommes offraient un sacrifice, c'est un système très compliqué, la barrière se levait. Quand vous payez votre péage, rappelez-vous du sacrifice qu'il fallait faire pour avoir accès à Dieu. Okay. On ne passe plus au péage sans penser au sacrifice. D'autant que c'est de plus en plus difficile parce que les prix vont encore augmenter et que vous allez avoir à faire des sacrifices de plus en plus grands pour circuler. Et puis Jésus-Christ, lui, on va voir dans toutes ces comparaisons, il est venu, il vous donne un pass Vous n'avez même pas à ralentir pour rentrer dans la présence de Dieu. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun autre nom donné sous les cieux par lequel nous devions être sauvés. La réponse dans la Bible, c'est toujours Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est, je vous le dis, mais vous ne le ferez pas, j'espère, le mot de passe sur mon ordinateur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la réponse à tout. Il est la réponse à toutes les questions. Et donc, eux, ils revenaient au système religieux. Ils revenaient au sacrifice. Ils disaient finalement, c'était pas mal ces sacrifices. On donnait, on savait qu'on avait accès. Maintenant, on ne sait plus trop. Et par-delà les siècles, l'auteur de la lettre s'adresse à nous, chrétiens, qui négligeons notre foi par lassitude, à cause des influences. On voit les religions, on voit les philosophies, on voit le bouddhisme qui a tant de succès parce que c'est nouveau en Occident. On voit la résurgence de l'islam. On voit l'athéisme aussi qui fait de grands progrès. On voit les idolâtries, Marianne, une statue devant laquelle on doit se prosterner parce qu'elle incarne les valeurs républicaines qui sont un pâle reflet des valeurs judéo-chrétiennes. On voit toutes ces choses qui menacent de nous éloigner d'une vraie foi en Jésus-Christ, qui est une vraie foi en Dieu parce qu'il est le seul chemin par lequel nous puissions avoir accès à Dieu le Père. Et pour terminer cette introduction, le thème de la lettre, de quoi elle parle, encore une fois, c'est la supériorité de Christ. Supériorité dans tous les domaines. Sa prééminence, son œuvre. On verra qu'il offre une meilleure révélation. Il offre une meilleure position, il offre une meilleure prêtrise, il offre une meilleure alliance, il offre un meilleur sacrifice, on vient de l'évoquer, il offre une meilleure puissance. Et donc ce thème, c'est de nous exhorter à grandir en Christ, à rejeter l'apathie spirituelle. Et c'est pas quelque chose pour les autres seulement, l'apathie spirituelle. C'est quelque chose qui me guette si j'y fais pas attention. Si je suis pas dans la parole, si je parle pas de lui autour de moi, si je mets pas toute ma confiance en lui dans tous mes problèmes, c'est facile de s'éloigner. Et on va voir comment nous allons être mis en garde contre ce déclin spirituel qui nous guette tous. Nous vivons dans un monde qui nous entraîne loin de Dieu. Et si vous avez déjà essayé de monter un escalator qui descend, vous avez vu qu'il fallait faire des efforts. Et Dieu est là pour vous aider. C'est pas, tout n'est pas en votre puissance, mais sachez que ça demande une attitude d'esprit. Il faut considérer Jésus. Et aucun autre livre du Nouveau Testament ne se focalise autant sur Christ. Paul nous promet dans 2 Corinthiens 3:16, c'est un de ces passages 3:16 dont il est bon de se souvenir, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Souvent, on a l'impression qu'on voit les choses vaguement, qu'on n'est pas bien clair sur la vie, sur la mort, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Si on se tourne vers Jésus-Christ, le voile qui nous empêche de le voir, est enlevé. On va commencer en lisant les trois premiers versets de la lettre aux Hébreux. C'est un passage au même niveau que le début de la Genèse ou que le prologue de l'évangile de Jean. C'est très riche et encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. C'est pas Pierre, hein, ni Paul, ni c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous avez remarqué que l'auteur n'essaye pas de justifier ou de prouver l'existence de Dieu. La Bible part toujours de ce postulat, Dieu est là, Dieu existe. Dans la Genèse, la première parole, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Le psalmiste nous dit que seul l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Il faut faire un effort intellectuel pour remplacer l'idée d'un créateur par un chaos cosmique qui créerait des choses. Un enfant n'a aucun problème à croire en un Dieu qui crée des choses et qui l'aime. Il faut beaucoup de philosophie pour penser que tout est arrivé par accident. Dieu existe et Dieu a parlé. Il aurait pu se contenter d'exister, de nous regarder, faire, comme les enfants qui ont une petite ferme à fourmis pour Noël et qui observent ce qui se passe, mais qui ne peuvent pas parler avec les petites fourmis. Dieu, il a parlé. Et ce n'est jamais l'homme qui découvre Dieu, c'est Dieu qui se révèle. La Bible, c'est la révélation divine. Il se révèle par la nature, la création qui nous entoure, par la conscience qu'il a mis en chacun de nous et par sa parole. Il est dit que à plusieurs reprises et de bien des façons, il a parlé à nos ancêtres par les prophètes. Il a commencé à se révéler en donnant la parole à des prophètes, en leur mettant des choses à dire. Et l'idée, c'est que la révélation, elle a été fragmentaire au début. Et c'était comme s'il y a eu d'abord une révélation préparatoire et une révélation supérieure. Et là, dans la lettre aux Hébreux, on arrive à la révélation la plus complète qui nous soit donnée. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, ça existe encore dans certains quartiers, mais on pouvait savoir l'heure qu'il était, pas en regardant notre iPhone, notre portable, ça n'existait pas, mais en écoutant les cloches de l'église d'à côté. Et pour savoir vraiment l'heure qu'il était, il fallait... On ne savait pas à chaque coup qu'il était donné, il fallait avoir que ça se calme, que ça s'éteigne, que ça se devienne silencieux pour qu'on dise « Ah, il y a eu 9 coups, donc il est 9 heures du matin. Je suis en retard pour l'école qui commençait à 8 heures. » Et de la même façon, les révélations par les prophètes, c'était quelque chose qui était fragmentaire, mais qui, lorsqu'on prend tout ensemble, est d'une unité incroyable. Christ, il nous a parlé par les prophètes, mais Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. On a déjà évoqué ce qu'étaient les jours derniers. Pour les Juifs, c'était un concept messianique. Ils attendaient le retour du Messie et il allait revenir dans les jours derniers. Christ est une meilleure révélation. Il nous a parlé par le Fils. Le soleil, pour nous, il est plus brillant que la lune. La lune n'est qu'une réflexion. Il est plus brillant que les étoiles. La révélation de Dieu, elle est complète en Jésus-Christ. Vous vous souvenez, Jésus qui disait à Philippe, « Tu veux voir le Père ? Comment toi qui me connais, tu dis que tu veux voir le Père ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Jésus est le Fils de Dieu. Tout au long de cette épître, de cette lettre, on va le retrouver. Et cette lettre, elle réunit les deux notions de salut et de fils. Jésus est Dieu et c'est pour cela qu'il peut ôter les péchés. C'est pour cela qu'il peut ouvrir la barrière d'accès à Dieu une bonne fois pour toutes. Soit en la détruisant, soit en nous donnant, et je crois que c'est mieux de garder l'image du pass qu'on peut utiliser à tout moment sans que ce pass ne nous coûte rien. Seulement d'avoir placé notre confiance en lui, notre foi en lui. Jésus est le Fils de Dieu, il l'a établi héritier de toutes choses. Il va finir par régner sur tout. Le psaume 2 nous dit, Dieu parlant au Fils, je te donnerai les nations pour héritage. Tout va lui revenir. Paul, dans Romains 8, 17, nous disait que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Paul disait dans Éphésiens 1, 14 que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est comme un premier raconte. Jésus, non seulement il a toutes choses, mais il va hériter des choses, de toutes choses. On y reviendra. Jésus est aussi le Créateur. C'est lui qui a créé l'univers. C'est par lui qu'il a fait les mondes, les âges. Et nous avons été créés pour le connaître et pour le glorifier. Jean nous dit dans son prologue, « Tout a été fait par la parole qui représente Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Colossiens 1, 16 nous dit « En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et même ce qui est invisible. Les trônes, les souverainetés, les pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. » Et moi, j'ai été créé par lui et pour lui. Je n'ai pas de sens. Je suis un hasard cosmique si je ne reconnais pas que j'ai été créé par lui et pour lui. Un autre point, c'est que Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu, l'expression de sa personne. D'abord, il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez pensé qu'en fait, vous n'avez jamais vu le soleil ? Mais chaque fois que je le regarde, je dois mettre mes lunettes de soleil. En fait, on ne voit pas le soleil, on voit les rayons du soleil qui viennent interférer avec nos, nos cellules optiques. Pour les Juifs, le rayonnement de la gloire, c'était le signe visible de la présence de Dieu. Le mot hébreu, c'était la Shekhina. C'était celle qui habitait le Saint des Saints. Il y avait la gloire de Dieu. Et comme on l'a rappelé, voir Christ, c'est voir Dieu. Nul homme ne peut voir Dieu, nous disait Moïse, mais nous pouvons voir Christ. Christ s'est fait homme. Nos yeux l'ont vu, disait Jean, dans 1 Jean. Mais même lorsque nous voyons Christ, nous voyons que la gloire de Dieu. Il y a un mot pour désigner ce rayonnement de la gloire de Dieu en anglais, je ne sais pas s'il existe en français, l'effulgence. Effulgence, je trouve très parlant pour moi. C'est comme un soleil qui est Dieu et dont nous pouvons voir le rayonnement en Jésus. Il est l'expression de Dieu. Paul nous disait qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Souvent à Noël, on hérite de cette mauvaise idée qu'il y a Dieu le Père qui a créé Jésus-Christ à Noël. Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de toute éternité une trinité ensemble. Et ce que nous célébrons à Noël, c'est l'incarnation, ce n'est pas la création de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est incarné, il a pris un costume d'homme. On en a parlé avec Enrico et sa famille pour dire qu'en fait, lorsque nous décédons, nous revêtons un corps spirituel, un peu comme un astronaute qui ne peut pas aller dans l'espace sans avoir revêtu un costume spécial, un scaphandre d'astronaute. Nous avons besoin d'un autre corps. Notre corps physique ne pourrait pas être en présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait à l'envers. Il est venu mettre un costume d'homme à Noël. Et puis il est reparti. Il va revenir de façon visible. Nous avons un homme dans la gloire de Dieu maintenant. Jésus-Christ, il est l'expression de Dieu. Il est l'exacte représentation de Dieu. Le mot signifie un sceau, comme un tampon que l'on met dans la cire fondue, qui laisse exactement l'image qui a été gravée sur le tampon. Quand on voit Jésus, encore une fois, on voit Dieu lui-même. Une autre révélation dans ces quelques versets, c'est qu'il soutient tout par sa parole puissante. On a dit qu'il est avant toute chose et tout subsiste en lui dans Colossiens 1:17. C'est par sa parole, la puissance de sa parole, le Verbe, par qui tout a été créé. Aujourd'hui, si vous avez joué avec des aimants, vous savez que des aimants se repoussent si les pôles sont placés l'un contre l'autre, pôle sud contre pôle sud, pôle nord contre pôle nord, les deux pôles d'un aimant. Vous savez aussi que l'atome est composé d'éléments chargés électriquement, qui a les électrons. Et puis il y a un noyau, et puis dans ce noyau il y a des protons qui sont chargés positivement, et pourtant ils restent ensemble. C'est un défi à la science. Alors les scientifiques ne sont pas à court d'hypothèses et et de théories font avancer les recherches. On trouve des éléments plus petits, mais on ne comprend toujours pas, que tout n'explose pas. La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ, par sa parole, qui retient tout ça. Et le jour où il relâche Hiroshima, ça sera un pétard de bonbons, en comparaison. La parole de Dieu, elle a créé l'univers. La parole de Dieu, elle peut détruire l'univers. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le soutien, qui tient tout ça dans sa main, par sa parole. Il nous dit aussi qu'il est notre Rédempteur. C'est lui qui a accompli la purification de nos péchés. Une fois pour toutes, on n'a plus à payer à chaque fois qu'on veut s'approcher de Dieu. On n'a plus à offrir de sacrifice. Son sang, il l'a versé. Il a même dit que c'était le sang de Dieu. Versé, ça veut dire que le jugement a déjà été exécuté. Que si nous sommes en lui, nous n'avons plus à recevoir de la punition que mérite notre péché. Le salut se compose de trois éléments. D'abord, la justification, qui veut dire qu'on est déclaré juste et on n'a plus à recevoir la punition du péché, qui est la mort. On est ensuite sanctifié, c'est la sanctification. On est libéré du pouvoir du péché, on n'a plus à succomber à la tentation et tomber dans le péché. Et puis il y a un troisième élément, après la mort, lorsque nous serons en présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la glorification. On sera libéré de la présence du péché. Waouh ! Alléluia ! Jésus, c'est le Rédempteur, c'est lui qui a fait la purification. Et puis, une autre chose, c'est que c'est Jésus qui est sur le trône. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis, ça veut dire que son travail est terminé. Le grand prêtre qui symbolisait Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il allait dans le Saint des Saints, mais il ne s'asseyait jamais. Au contraire, on avait peur pour sa vie, on avait peur que la présence divine le détruise parce qu'il était pécheur. Il devait offrir d'abord un sacrifice pour lui-même, entrer dans ce saint lieu pour offrir à son tour un sacrifice pour le peuple d'Israël. Et donc Jésus, il est tout ça. Et avant, Dieu nous parlait par les prophètes, maintenant il nous a parlé une fois pour toutes par son Fils, par le Christ. Les prophètes, Ézéchiel décrivait la gloire de Dieu. Jésus-Christ, il est dit qu'il est la gloire de Dieu. Ésaïe, il a parlé de la nature. Jésus-Christ, il a créé la nature, le monde qui nous entoure. Jérémie, un beau prénom, il a dépeint la puissance de Dieu. Christ, il a manifesté la puissance de Dieu. Et il faut bien noter que l'auteur de la lettre, il ne va pas rejeter ces révélations faites dans l'Ancien Testament, dans les prophètes. Au contraire, il va montrer que Christ, il est la continuation, il est l'aboutissement parfait de toutes ces choses. Jésus, lui-même, dans Matthieu 13, a indiqué la supériorité de sa révélation. Ceux qui vous disent que Jésus-Christ n'a jamais dit être Dieu, on le répète souvent, seraient bien incapables de dire pourquoi il a été sacrifié, tué, mis à mort par les chefs juifs de son temps. C'est parce qu'il blasphémait en disant qu'il pouvait pardonner, il se faisait l'égal de Dieu. Voilà ce qu'il a dit Jésus dans Matthieu 13, 16. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous avez entendu et ne l'ont pas entendu. Christ continue de nous demander, toi, qui dis-tu que je suis ? C'est pas un grand prophète seulement, comme le disent certaines religions. C'est pas seulement un grand penseur, un grand philosophe, comme le disent certains athées. C'est pas le fondateur d'une religion. Il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils venu sur terre pour mourir pour nos péchés et nous offrir la vie éternelle. Quand on comprend mieux ces choses, on réalise que c'est folie que de ne pas vivre pour lui. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette lettre. Et merci pour le privilège de pouvoir l'étudier afin de mieux te connaître, de voir que tu es une révélation parfaite de qui Dieu est, que toi-même tu es Dieu, Dieu le Fils, que tu t'es incarné, que tu es venu mourir pour moi, Seigneur. Tu es venu mourir pour nous. Je prie qu'en cette nouvelle année 2017, tu deviennes toujours davantage le centre de nos vies, Seigneur. Pas le centre de notre vie religieuse, qui se passe peut-être une fois par semaine ou deux, mais le centre de nos vies de tous les jours. Comme nous l'avons chanté, à chaque instant, à chaque heure, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de te connaître, nous avons besoin de t'apprécier, de t'aimer, de servir et t'obéir. C'est vrai, Seigneur, tu as dit que t'aimer, ce n'est pas dire de grandes paroles, ce n'est pas avoir des sentiments romantiques, Seigneur. Aimer, c'est très prosaïque, c'est t'obéir. Aide-nous cette année à t'obéir, simplement, avec foi, et remplis-nous d'espérance, de foi et d'amour, Seigneur, pour toi et les uns pour les autres. Amen.